cours de philosophie de l'art par le père Philippe à Saint-Jadar, le 13 avril 1989.
Dernière fois, je vous ai rappelé les divers moments de l'activité artistique en montrant que le travail, puisqu'on part de l'expérience du travail, il faut tout le temps y réfléchir. L'expérience du travail n'est parfaite que quand ce travail est lié à une aspiration. Quand le travail n'est plus lié à l'inspiration, vous devenez un manœuvre. Vous savez bien, même dans vos études spéculatives, vous êtes un manœuvre. Vous avez un professeur qui a une idée géniale de thèse. Vous n'y comprenez rien. Il vous dit, allez-y. Comment ? Là, il vous donnera une liste de livres à lire comme information. Vous lirez tout cela. Ça fait partie du gatsos. Et vous devrez, à partir de là, essayer de réaliser quelque chose. Vous avez une très vague idée de son inspiration. C'est un peu manœuvre. Tandis qu'autrement, si vous avez une inspiration, une idée géniale, et vous dites, ah, c'est ça que je vais faire. Tout est commandé par cette idée géniale que vous avez. C'est elle qui dirige tout, qui écarte ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Dans l'art manuel, culinaire, c'est encore beaucoup plus vrai. Vous avez celui qui pense à l'organisation du repas, à l'équilibre du repas. Et puis, il commande des gâteaux. Chacun, dans son cas, ne voit pas. Il dit, tiens, c'est curieux. Il réalise ça. Il ne voit pas qu'il y a à côté un complément. Il y a un troisième complément. Il ne comprend pas. Il travaille en série. Celui qui travaille dans l'usine, on lui demande uniquement de faire attention à telle chose, tel geste, telle réalité. Il ne voit pas l'ensemble. Manœuvre. Il faut bien distinguer le travail. C'est pour ça qu'ordinairement, aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, on ne voit comme exemple du vrai travail que l'artisan, que l'artiste, que celui qui, au point de vue spéculatif, est arrivé à une certaine autonomie, une certaine découverte, pour arriver à faire une thèse, ou un petit travail. On vous demande de faire un petit travail. Et il y a un petit peu de gingin, hein, pour faire un petit travail. Découvrez un tout petit peu quelque chose qui vous intéresse. Si vous n'avez rien du tout qui vous intéresse, vous direz, dites-moi un sujet. Manœuvre. Un peu plus, peut-être. Parce que vous... Expliquez-moi un tout petit peu votre idée. Vous l'explique et vous la recevez. Manœuvre. Le manœuvre, c'est celui qui reçoit la direction. Le disciple n'est pas manœuvre, il coopère, plus ou moins, et il coopère, c'est pas la même chose. Mais il y a des disciples qui sont manœuvres, sont de purs instruments d'exécution. Oui, et c'est là la complexité du travail. C'est pour ça qu'il faut faire grande attention, il faut bien comprendre quand je parle du travail, parce que le mot travail en français, c'est un mot assez récent. Les philologues recherchent ça. J'ai lu une fois une étude là-dessus. est intéressante. Le mot qui ressemble au grec, c'est œuvrer. C'est pas tout à fait la même chose. On œuvre. Vous voyez, dans œuvrer, l'œuvre est présente. La finalité du travail est présente. Tandis que quand vous dites travailler, laboureur, il travaille. Travailler, on voit surtout l'effort physique du travail. C'est pour ça que facilement, on dira les intellectuels, ils ne travaillent pas. Ils travaillent. La carte des travailleurs pendant la guerre, c'était uniquement ceux qui travaillaient manuellement ou en usine. Les intellectuels, non. Travaille pas. Et le travail est lié à quelque chose de laborieux. Le travail laborieux. Le travail manuel est laborieux. Le travail intellectuel, on ne voit pas le labeur. Mais il est laborieux. Quand vous essayez de comprendre la métaphysique d'Aristote, vous, vous mettez devant ce texte, vous n'y comprenez rien, et vous devez le lire 50 fois avant d'avoir un tout petit peu d'éclairage. Ah, c'est laborieux. Quand vous voulez entrer dans la métaphysique de l'acte et de la puissance, c'est laborieux. C'est pas facile du tout. Quand vous voulez entrer dans saint Thomas, c'est laborieux. C'est pour ça qu'on ne lit plus aujourd'hui. Parce qu'on aime des choses. On croit qu'il n'y a pas de travail intellectuel. On ne voit pas ce que c'est qu'un travail intellectuel. Oui, les scientifiques qui ont un laboratoire, savent qu'il y a un travail. Les historiens qui doivent secouer toute une bibliothèque, ils doivent chercher des livres, des manuscrits qu'on n'a pas édités, on dira qu'il y a un travail. Mais l'intellectuel spéculatif, on dira pas de travail. C'est très curieux ça. Vous voyez, il faut sentir la sensibilité de la signification des mots. Alors, il y aurait un premier petit travail à faire. Voir tous les mots qui sont presque synonymes au travail. Et je prends œuvrer. C'est tout proche du grec. Ergon Saton. C'est œuvrer. C'est ergon, l'œuvre. Et c'est proche de l'œuvre. Et je crois que c'est la première signification. Œuvrer. Puis deux. L'œuvre, on a pris le travail. Donc, je ne le fais pas ici, question de mots, d'étymologie, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Chercher dans la langue, par exemple, travail, œuvrer. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose, mais il doit y avoir quelque chose sur le travail. Aujourd'hui, il doit y avoir quelque chose. Mais au Moyen-Âge, chercher dans saint Thomas travail, hein? Trouvez pas. On dira, oui, dans toute la somme théologique, pas un mot sur le travail. Mais le scandale pour une théologie moderne, la théologie des travailleurs, quand même, hein? C'est important ça. La théologie de la libération, qui ne se comprend qu'à partir de là, c'est quand même important. Regardez dans saint Thomas ce qu'il dit sur l'art, dans la somme théologie, presque rien, par mode d'analogie, mais pas traité pour lui-même. C'est curieux, hein? C'est très curieux, parce que la théologie est restée uniquement une théologie scientifique. L'intelligibilité. Alors la question du travail est restée très secondaire. La question de l'art est restée secondaire. Si la théologie avait poussé un peu du côté d'une théologie mystique, alors à ce moment-là, tout le symbolisme reprend sa valeur. Et tout l'art reprend sa valeur. Parce que la connaissance artistique est symbolique. Elle est symbolique. Et donc, connaissance poétique, lecture du réfectoire à midi. Hein, vous voyez bien, c'est poétique. C'est quelquefois même tellement poétique que ça vient des jeux de mots. N'est-ce pas ? Alors, c'est le symbolisme de langage. C'est très curieux, c'est amusant. On est grisé par ça. Grisé. On s'amuse, quoi. La connaissance symbolique est une connaissance artistique que la connaissance scientifique laisse tomber et que la théologie mystique reprend. Parce que l'affectivité se sert du symbole. Notre connaissance affective se sert du symbole. Donc, première chose, faites ce petit travail très simple sur la signification du mot travail dans le monde d'aujourd'hui. Deuxièmement, regardez l'encyclique du pape sur le travail. Si vous l'avez déjà lu, il faut la relire. On peut la lire deux fois. C'est pas mauvais. Même trois. Et si vous ne l'avez pas lu, c'est l'occasion de la lire. Parce que c'est intéressant. Et vous verrez que le Saint-Père traite la question tout à fait autrement qu'on la traite. C'est pas en opposition. Mais c'est autre chose. Le pape se place du côté du pasteur qui parle à ses brebis, à des brebis qui travaillent. Il parle à ses brebis et il voit les deux grands obstacles ou les deux grandes conceptions fausses du travail. En voyant que ces deux grandes conceptions fausses du travail sont contraires et ont quelque chose de commun. C'est tout l'intérêt de cette encyclique. Et ça, c'est très intéressant. Et vous voyez, le contenu est philosophique. Il y a une grande lumière théologique du départ en voyant que le commandement premier de Dieu, c'est de transformer l'univers. Et transformer l'univers, c'est toute la théologie du travail. Et c'est vrai, dominer l'univers. Si je regarde ce que c'est que l'image de Dieu, selon la Genèse, je vois qu'il y a trois dimensions. L'imago Dei. Dominer l'univers. Connaître, nommer, donner à toute chose le nom, et puis l'amour. Dieu crée l'homme et la femme. Les trois grandes dimensions de l'Imago Dei. L'Imago Dei commande toute la théologie morale de saint Thomas. Et avant saint Thomas, celle de saint Augustin et de tous les pères de l'Église. Et voyez que dans cette conception d'Imago Dei, selon saint Augustin, mémoire, intelligence, amour, volonté. Voilà les trois dimensions de l'Imago Dei qui commandent non seulement la morale, mais tout le traité de la Trinité de saint Augustin. De Trinitate. C'est important de voir que, comment cette vision du point de départ, c'est quand même la première. première vision anthropologique sur l'homme était anthropologique de croyant. Aristote n'a jamais dit que l'homme imago Dei. Si Aristote avait connu ça, il serait jeté dessus. Ça, c'est étonnant, c'est extraordinaire. Imago Dei. Non. Il dit simplement la métaphysique, connaître l'intelligence et Dieu. Mais il ne dit pas que l'homme est à l'imago Dei. Ça, c'est vraiment le croyant. Voyez comment saint Augustin transforme dominer l'univers en mémoire. C'est très curieux. C'est très curieux. Ça, c'est le platonisme de saint Augustin qui fait que le dominium n'est plus vu comme travail, mais comme connaissance. Et à partir de là, la notion du travail disparaît de la théologie. Ça, je crois qu'on peut le dire. Le Saint-Père ne le dit pas dans son encyclique. Mais je crois qu'on peut dire que cette transformation du dominium en mémoire joue un très très grand rôle. Parce que ça va incliner toute la théologie vers une théologie de la connaissance. Et on va oublier que le dominium, alors ça, le pape le dit, que le dominium, c'est le premier précepte donné à l'homme, dominer l'univers. Or, comment l'homme domine-t-il l'univers? Par le travail. Donc, ce précepte-là va impliquer le point de vue du travail. Et pour le Saint-Père, c'est très intéressant, parce que par là, il montre que l'Église, donc le magistère, doit s'occuper du travail. Et qu'au fond, l'Église a oublié cela. Il y a un oubli. Pourquoi cet oubli? Parce que de fait, le travail, dans la règle de saint Benoît, il y a des chapitres sur le travail, donc d'une théologie tout à fait pratique. Saint Benoît se pose la question, faut-il donner aux novices le travail où ils sont le plus capables? Gens extrêmement capables au point de la cuisine, il y a des gens qui sont très capables au point de vue de la menuisier, des gens qui sont très capables au point de vue de l'ordinateur, et ainsi de suite. Faut-il confier ça, ou au contraire faire l'inverse? Est-ce que le monastère est une usine en vue de l'efficacité, ou est-ce que le monastère est en vue de la sainteté? Une division du travail très particulière. Parce que si on donne à chacun là où il est spécialiste, il risque de s'enorgueillir. Je suis seul à faire une cuisine merveilleuse. La preuve, c'est quand il y a un évêque qui vient, on me demande de faire la cuisine. Donc je suis le seul. Quand il n'y a pas d'évêque, sans aucune espèce d'importance, que la soupe soit brûlée, que toutes les pommes de terre ne soient pas cuites, aucune espèce d'importance. Mais quand il y a un évêque, oui, attention, quand même, hein, la maison soit bien tenue. Oui, alors on met les spécialistes. Alors, petit orgueil, très vite. C'est la même chose pour les chantres. Alors l'orgueil, on donne à chacun sa spécialité. Dans une usine bien faite, compétente, on qualifie chacun et on met chacun à son poste où il peut. pétrole le plus efficace pour que ça marche. Tout est commandé par l'efficacité. Tandis qu'un monastère n'est pas commandé par l'efficacité. Il est commandé par la sainteté. Le bien commun, c'est la sainteté. Le bien commun, c'est pas la tarte à la crème. Non. Si le bien commun était la tarte à la crème, alors à ce moment-là, on mettrait le spécialiste. Mais non, le bien commun, c'est la sainteté. Alors, voyez comment, dans la vision de l'Écriture, le dominium est ordonné à la connaissance et à l'amour. C'est très intéressant de voir ça. Il y a un ordre très net. Dominer l'univers en vue de le connaître et en présupposant qu'il faut la connaissance. Et le connaître pour aimer l'homme. On domine l'univers pour élever sa famille. On domine l'univers pour avoir de quoi manger, contempler et aimer. C'est pas le dominium pour le dominium. Il est ordonné. Et ceci, c'est très net. Dès que je regarde la Genèse, je vois que les tentations, c'est d'abord supprimer l'amour. Alors, dès qu'on supprime l'amour, dès qu'il n'y a plus l'amour, l'orgueil, le premier péché, supprime l'amour. Et à ce moment-là, la connaissance, ou, et regardez comme fin l'orgueil, où la connaissance est en vue de la domination. Il n'y a plus la vraie finalité. Et vous voyez par là, par la négation, que dominium, connaître et amour sont ordonnés selon un ordre de sagesse. Ce que le théologien doit essayer de comprendre. L'imago Dei dépend de la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui crée son chef-d'œuvre en en faisant l'imago Dei et en mettant cet ordre, les trois dimensions de l'imago Dei qui sont ordonnées. C'est un fait que il n'y a pas eu de théologie du travail, mais il y a eu un point de vue chrétien du travail dans les règles monastiques. Et uniquement dans les règles monastiques. Et c'était le monastère qui éduquait. Dans l'âge féodal, c'est comme ça. C'est le monastère et le seigneur qui éduquent. Et alors, il y a une théologie du travail au niveau monastique. Mais quand la théologie est devenue universitaire, avec le Moyen-Âge, avec saint Thomas, le travail est resté à côté. On a continué dans les monastères à regarder le bienfait du travail, de l'œuvre. On n'a plus fait de théologie du travail. Et il n'y a pas de théologie du travail. Et l'encyclique du pape réclame une théologie du travail. Parce que l'encyclique du pape n'est pas une théologie du travail. C'est une encyclique, un enseignement pratique. Attention, évitez de grandes erreurs, qui sont les deux grandes erreurs d'aujourd'hui. Alors, le Saint-Père montre quelles sont ces deux grandes erreurs du travail. Vous avez d'une part le libéralisme et d'autre part le marxisme. Ce qui est très intéressant, c'est que le Saint-Père met dos à dos libéralisme et marxisme. En montrant que dans le libéralisme et le marxisme, on sépare le travail de l'homme. Et on ne regarde plus le travail que dans son efficacité. La praxis. Et des deux côtés, il y a l'oubli de l'homme. Désir du pape dans son encyclique, c'est dire aujourd'hui de révaloriser le travail en montrant que le travail est humain. Le travail, pour être vraiment un travail, il est humain. Et en étant humain, il fait partie du développement de l'homme. Un homme qui ne travaille pas n'est pas un homme. Parce que c'est inclus dans l'imago Dei. L'image de Dieu implique cette réalité profonde du travail. Oui. Donc ça, c'est vraiment œuvre théologique de montrer ça. Et c'est une vision de sagesse sur le libéralisme et le marxisme. En montrant que le libéralisme, comme le marxisme, ont une conception fausse du travail. Parce qu'on fait une abstraction là où on ne devrait pas la faire. On sépare le travail de l'homme. Alors on vend son travail. On fait un contrat de travail. Un contrat de travail, je travaillerai tant d'heures pour vous. On ne regarde rien d'autre que ça. Donc, vous voyez, l'aliénation que le marxisme souligne, c'est de vendre son travail. Et en vendant son travail, on aliène l'homme. Et c'est tout à fait juste, puisque le travail fait partie essentielle de l'homme. Un père de famille, quand il travaille, on ne peut pas faire abstraction du père de famille. L'homme. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Et vous voyez, ceci existe parce qu'il n'y a plus eu de philosophie du travail. S'il y avait eu une philosophie du travail, on n'aurait pas fait cette séparation. On ne pouvait pas faire la séparation. Mais en fonction d'une idéologie, on a séparé. Donc c'est un idéalisme. Le libéralisme, comme le marxisme, sont tous les deux des idéologies du travail. On ne voit plus ce qu'est le travail d'une façon pratique. C'est très intéressant, ça, comme vision théologique de ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'on passe, on oppose libéralisme et marxisme. Et on oublie que l'un et l'autre ont une fausse conception du travail. C'est pour ça qu'au fond, on fait tellement peu d'attention à l'encyclique du travail du Saint-Père. Remarquez, hein, c'est dans les oubliettes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les non-marxistes, c'est le libéralisme. Et les marxistes sont en opposition. Saint-Père attaque les deux en montrant que tout le monde aujourd'hui est dans une position fausse à l'égard du travail. Et le Saint-Père donne cette encyclique pour montrer le fondement de toutes les encycliques sociales qui ont été faites. Quadragésimo anno. Il va plus loin, il donne un fondement philosophique. Ce que les autres papes n'ont pas fait, parce que tout l'aspect philosophique les intéressait moins. Ce qui est intéressant là, c'est de voir que le pape remet en lumière quelque chose de très important pour nous, toute une anthropologie de l'homme. Dans une anthropologie de l'homme qui veut être plénière, je ne peux pas oublier la philosophie du travail. Donc, je vous rappelle ça pour vous faire comprendre que le cours que nous allons faire n'est pas dans la lumière de l'encyclique, mais que l'encyclique du pape, si on est chrétien, nous oblige de faire une philosophie du travail. Parce que vous ne pourrez pas faire une théologie du travail si vous ne faites pas une philosophie du travail. Deuxième remarque. C'est important pour bien situer ce que nous faisons, hein. Autrement, vous ne comprendrez pas. Deuxième remarque. Le marxisme qui nous a réveillés. Ça a réveillé beaucoup de théologiens. Père Chenu a fait une petite plaquette sur la théologie du travail, mais sans critiquer l'aspect philosophique marxiste en l'assumant. Alors vous avez une espèce de théologie marxiste du travail. N'a pas vu. Comme je pourrais faire une théologie du travail au niveau libéral, dans le libéralisme, oubliant que la conception du travail est fausse. Si vous avez une conception fausse du travail, vous faites une théologie fausse du travail. Au point de vue philosophique, qu'est-ce qu'il y a comme topic du travail? C'est intéressant de se poser la question. Et faites-la pour vous. Une petite topique du travail. Il faut ouvrir un grand chantier là-dessus. Tous. Parce que tous, on est aujourd'hui, on doit avoir une philosophie du travail. Alors, ayez une petite topique. Quel est le premier philosophe qui nous a donné une théologie du travail? Hésiode. Les travaux. Elle est où? C'est Hésiode qui donne la première théologie. La philosophie occidentale a commencé par une théogonie, donc une théologie, et une philosophie du travail. Une philosophie du travail très liée à la famille. C'est ça qui est intéressant. Elle est liée à la famille. C'est le travail du père de famille, le travail de la mère de famille, le travail des instruments, le bœuf et les instruments de labour qui font cette philosophie du travail. Et là, on a une vraie, des éléments de la philosophie du travail. Ça n'a jamais été beaucoup travaillé, je crois, philosophiquement. C'est intéressant. C'est très intéressant de voir chez Hésiode le premier philosophe du travail, avec tout son sens concret, très très concret. Platon. Est-ce que Platon nous donne une philosophie du travail? Non. Il y a une philosophie de l'art chez Platon, de l'inspiration. Il n'y a pas de philosophie du travail. Quelques allusions sur le travail artisanal, qui est pour lui la classe fondamentale du citoyen. Un État est fondé sur les artisans et non pas les commerçants. Les commerçants ne sont pas des citoyens. Ça, c'est très intéressant. Chez Platon, les commerçants ne sont pas des citoyens. Parce qu'ils ne produisent rien. Ils sont là pour les échanges, permettre des échanges. Mais ils ne produisent pas. Donc, ils n'enrichissent pas. Ils appauvrissent plutôt. Puisqu'ils vendent plus cher, donc ils appauvrissent. Forcément, ça passe en différentes mains. Il faut que chacun gagne un peu. Donc les commerçants, ce sont ceux qui appauvrissent. Qui appauvrissent un pays. Quand il n'y a plus que des commerçants, le pays est nécessairement pauvre. Ça ne peut pas être autrement. Tandis que l'artisan, lui, travaille et enrichit. L'artisan, c'est tous les métiers, hein, tous. Tous les métiers où il y a production d'une œuvre. Le médecin est un artisan. Le coiffeur est un artisan. Le cuisinier est un artisan. Celui qui fait des sabots et des souliers est un artisan. L'agriculteur est un artisan. De tous. Alors cela sont les citoyens. Et c'est la base de l'État. Alors c'est intéressant de voir que le travail est tout de suite lié à l'aspect politique. y a une dimension politique dans le travail. Pour Platon, c'est net. Il n'a pas beaucoup étudié qu'est-ce que c'était que le travail. Mais il a situé le travail comme la base, le fondement politique. La politique commence par le haut et s'achève par le bas. Ça, c'est tout à fait Platon. Mais il est jamais c'est jamais un idéalisme pur. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette base fondamentale du travail. Parce que sa vision idéaliste de la politique, c'est la contemplation. Le roi, c'est le contemplatif. Et le contemplatif du bien, par le beau, qui doit établir la justice. On établit la justice qu'à partir du bien. Et la justice ordonne l'État. Et la justice va évidemment mettre tout de suite en lumière le fruit du labeur, du travail, le fruit de l'artisan. Avec ce point de vue très particulier que, de fait, il y aura des échanges. Mais moins, je dirais, plus on peut être proche de deux réalisateurs, plus la classe des commerçants diminue, plus un État s'enrichit. Aristote va parler du travail au niveau de la famille. Il retrouve l'idée d'Hésiode. Vous avez là deux conceptions tout à fait différentes du travail. Le travail, la base économique de l'État, le travail lié à la famille. Et ça, le travail est lié à la famille. C'est le père de famille qui doit organiser le travail autour de la famille et pour la famille. Le père de famille a le droit d'avoir des esclaves. Mais des esclaves, attention, pas des esclaves qui sont des esclaves de guerre, de violence, mais des esclaves qui sont naturellement des hommes incapables d'acquérir la prudence. Ça, c'est la vision aristotélicienne de l'esclave. Il y a des hommes qui sont incapables de se gouverner par eux-mêmes et qui ont toujours besoin d'être téléguidés. Et c'est pour leur bien qu'ils sont esclaves. Parce que s'ils n'étaient pas esclaves, ils n'arriveraient pas à se débrouiller dans la vie. Ils seraient paresseux. Il y a des gens qui sont paresseux naturellement. Alors ils ont besoin de la férule du maître qui est là pour les obliger de travailler. Et ils sont paresseux parce qu'ils n'ont pas de prudence. S'ils avaient la prudence, ils ne seraient pas paresseux. Ils sont incapables d'organiser leur vie. Alors c'est très intéressant, vous voyez, parce que la notion du travail et la notion de l'esclave, phousikos, l'esclave par nature, sont liées. L'esclave étant un instrument vivant, un instrument de travail. Si le maître n'avait pas d'esclave, il serait obligé de travailler lui-même, manuellement. Il ne pourrait plus penser. Il faut qu'il puisse penser. C'est rigoureusement la conception d'Aristote. Alors, ce n'est pas le philosophe qui doit gouverner pour Aristote. Non, non. C'est l'homme prudent. La sagesse est au-delà. La sagesse n'est pas politique au sens absolu. Elle est personnelle. Tandis que pour Platon, la sagesse est politique. C'est toute la différence. différentes conceptions de la sagesse chez Platon et chez Aristote. C'est très intéressant, vous voyez, de voir que même si là, il n'y a pas une philosophie du travail, il y a un regard philosophique sur le travail. Ah ça oui. Il y a un regard philosophique du travail qui est lié à l'homme. L'homme politique, l'homme père de famille, ou l'homme mère de famille. Le travail est avant tout et en premier lieu vu pour permettre le bene vivere, le bien vivre. Je continuerai cette petite topique. C'est intéressant. Je la ferai très rapidement. Hein. Il faudrait que vous la complétiez. Parce que c'est très intéressant à voir comment, en philosophie grecque, le travail est présent. Comment, de fait, en théologie, le travail va devenir absent.